Continuons notre lecture au chapitre 2. Et au verset 25e. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme dont le nom était Siméon, et cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été averti divinement par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort, que premièrement il ne vit le Christ du Seigneur. Et il vint par l'Esprit dans le temple. Et comme les parents portaient le petit enfant pour faire à son égard selon l'usage de la loi, il le prit entre ses bras et bénit Dieu, et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton esclave en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour la révélation des nations et la gloire de ton peuple Israël. » Et son père et sa mère s'étonnaient des choses qui étaient dites de lui. Et Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, celui-ci est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et pour un signe que l'on contredira. Et même une épée transpercera ta propre âme, en sorte que les pensées de plusieurs cœurs soient révélées. » Et il y avait Anne, une prophétesse, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer, elle était forte, avancée en âge, ayant vécu avec un mari 7 ans depuis sa virginité, et veuve d'environ 84 ans, qui ne quittait pas le temple, servant Dieu, en jeûne et en prière, nuit et jour. Celle-ci, survenant en ce même moment, louait le Seigneur et parlait de lui à tous ceux qui à Jérusalem attendaient la délivrance. Nous arrêtons là. Sans revenir bien longtemps sur ce que nous avons vu, mais dans l'intention de nos amis qui sont là ce soir, nous pourrions dire quel était le but poursuivi en ouvrant l'Évangile selon Luc au début de celui-ci. Nous avions à cœur de nous placer devant un petit résidu fidèle qui porte des caractères vraiment intéressants, dont les circonstances, la vie, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, présentent un réel intérêt, un encouragement et un exemple pour nous. Pour faire apparaître le caractère distinctif de l'Évangile selon Luc, nous avons rappelé que Matthieu écrivait pour les Juifs, c'est lui qui nous donne le plus de citations de l'Ancien Testament. Son évangile a un caractère tout particulier, il groupe les faits, les discours en vue de celui qu'il poursuit, montrer que Jésus est bien le Messie. Marc dépeint le serviteur parfait, Luc nous montre le Fils de l'homme, et Jean établit devant nous de la façon la plus décisive la divinité du Fils de Dieu. Sauf qu'on a résumé, si l'on peut ainsi parler, ces 4 évangiles en disant « Matthieu démontre ». Marc dépeint, Luc décrit et Jean déclare. Quand nous ouvrons l'évangile selon Luc, nous ouvrons l'évangile écrit par un grec, à l'intention d'un autre grec, un homme des nations, pour nous montrer l'universalité de la grâce de Dieu à travers celui qui vient dans ce monde et qui prend ce titre de fils de l'homme. Nous sommes bien arrêtés sur ce nom que le Seigneur prend, c'est un nom caractéristique très important. Nous avons remarqué qu'il se trouve à une unité près 80 fois dans les évangiles, et seulement 3 ou 4 fois tout au plus dans le reste du Nouveau Testament. C'est-à-dire, Étienne le verra, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout. Nous le voyons aussi dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, en relation avec le sujet que l'apôtre traite, insistant à la fois sur la divinité et sur l'humanité du Seigneur, les deux piliers sur lesquels son œuvre est appuyée en vue d'y poser la sainte sacrificature qu'il exerce maintenant pour nous. Dans l'Apocalypse, nous avons 2 fois la mention du Fils de l'homme. Nous avons vu que la première fois que le Seigneur parle de lui comme étant le Fils de l'homme, c'est en rapport avec sa situation déjà de rejet au milieu de son peuple. quelqu'un s'approche et dit, Maître, je voudrais te suivre. Et le Seigneur répond, oui, mais il faut bien faire ton compte. Parce que les renards ont des tanières, les oiseaux des cieux ont des demeures, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Matthieu 8, c'est la première fois que le Seigneur parle de lui comme étant le Fils de l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire, rapidement? Présenté dans le psaume 2 comme le Messie et comme le Fils de Dieu, nous savons bien que dans ce psaume très important, les trois personnes divines tiennent chacune un discours. Dieu parle, le Seigneur parle, et le Saint-Esprit parle. Dieu, en opposition avec la folie des hommes qui vont rejeter son Fils, une chose est annoncée et elle sera réalisée. Et Pierre, dans son discours à Jérusalem, fera mention du psaume 2, les nations se sont déchaînées contre Christ. Vous savez bien que l'écriteau de la croix était en trois langues. Personne ne peut se soustraire. L'écriteau était en hébreu, en grec et en latin, c'est-à-dire les trois grandes familles humaines d'accord pour rejeter le Fils de Dieu. Dieu dit, mais moi j'ai sacré mon Fils roi sur Sion. La déclaration divine. Et le Seigneur lui parle à son tour. Il dit, moi je vais raconter le décret. Le décret qui date de toute éternité. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Tu es mon fils, c'est-à-dire, il souligne ce qu'il est de toute éternité pour le Père, et montre, dans le restant du verset, sa position prise comme homme dans le temps vis-à-vis de Dieu. Tu es mon fils de toute éternité. Et aujourd'hui, c'est sa position dans le temps, comme homme qu'il prend pour accomplir l'œuvre que Dieu lui a donné à faire. Vous voyez? Et moi, je racontais le décret. Ensuite, l'Esprit Saint dit, baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite pendant que c'est encore le temps de la grâce. Employez-vous, dépêchez-vous, ne perdez pas le moindre instant de vous réconcilier avec lui. Rejeté comme fils de Dieu et comme le Messie, il prend un titre nouveau dans le chapitre 8, dans le chapitre 8 de l'Épître, comme le fils de l'homme. Il faudrait toute une réunion pour que nous nous étendions sur tous les détails, mais nous essayons de donner la pensée principale. Quand le Seigneur dit qu'il est le fils de l'homme, nous avons déjà Daniel qui est appelé fils d'homme, nous avons déjà Ézéchiel, c'est-à-dire que ce sont deux hommes qui vont parler de la part de Dieu, mais que Dieu retire du peuple en quelque sorte. Fils d'homme. Fils de l'homme veut dire qu'il est en relation avec l'homme sans qu'il y ait la moindre paternité humaine, mais cela veut dire qu'il a pris notre nature sans péché pour devenir un homme. Et en fait, pouvoir souffrir et mourir pour l'homme afin de faire hériter l'homme au-delà de la mort, au-delà du jugement exercé, afin de pouvoir faire hériter l'homme de tout ce que Dieu avait conçu en lui-même pour le bonheur de l'homme. Comment l'homme aurait-il pu hériter de tout ce que Dieu avait conçu pour lui dans son état de péché? Impossible. Finissons-en avec l'homme, dont le livre dans ses narines. L'homme a été mis à l'épreuve de toute manière, et Dieu n'emploiera que deux mots, peser, compter, diviser, manquant de poids. Personne n'atteint à la gloire de Dieu. Sauf que pour l'accomplissement de son dessein formé de toute éternité, je raconterai le décret. Eh bien, Dieu a envoyé son Fils en ressemblance de chair de péché, et pour le péché, pour régler la question du péché, et c'est comme Fils de l'homme qu'il va souffrir, qu'il va mourir, Hébreux 2, mais que Dieu va exalter, il va traverser tous les cieux, et alors, au-delà de la mort qu'il a subie pour nous, du jugement qu'il a traversé, nous allons être identifiés avec lui, comme ses compagnons. Et plus encore, c'est comme Fils de l'homme qui reçoit une épouse. Luc a donc devant lui d'établir l'humanité réelle du Seigneur Jésus, venant dans ce monde comme Fils de l'homme. Mais parce qu'il est le Fils de l'homme, il doit aussi hériter de tout ce que Dieu avait dans ses pensées pour l'homme. C'est au Fils de l'homme que toute autorité est donnée, au ciel comme sur la terre, dominera d'une mer à l'autre, d'un bout du pays à l'autre, on entendra des chants, gloire au juste, sa domination au ciel et sur la terre sera demain pleinement établie. Nous ne voyons pas encore aujourd'hui que toute chose lui soit assujettie, dit l'apôtre aux Hébreux, mais nous voyons par les yeux du cœur Jésus, couronné de gloire et d'honneur. Et demain, nous verrons cette couronne que Dieu a mise sur sa tête, et cette couronne sera toujours plus belle. Luc nous amène donc en présent du Seigneur vu comme fils de l'homme, c'est pourquoi la généalogie remonte jusqu'à Adam. Vous voyez, c'est très important cela. Tandis que Matthieu fait remonter comme Messie la généalogie du Seigneur jusqu'à Abraham. Alors nous avons dans l'évangile selon Matthieu, fils d'Abraham, fils de David. C'est la première ligne. Dans l'évangile selon Marc, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le fils de Dieu. Fils de l'homme dans l'évangile selon Marc, selon Luc, pardon, et fils du Père. Le Fils du Père qui vient de la part du Père pour révéler le Père et pour nous introduire avec lui dans la famille du Père, dans la jouissance de l'amour du Père. Fils d'Abraham, fils de David, fils de Dieu, fils de l'homme, fils du Père. Matthieu démontre, Marc dépeint, Luc décrit et Jean affirme, déclare que celui qu'il présente, bien plus tard que les trois synoptiques, est bien le Fils de Dieu. Alors notre but était, chers amis, de considérer, avant que Luc ouvre devant nous le champ si large de la grâce de Dieu envers tous les hommes, la fidélité de Dieu aux promesses qu'il a faites envers son peuple. Et c'est dans Luc, précisément, un étranger, que nous allons trouver au début de son évangile un tableau, un récit en sept tableaux de ce petit résidu fidèle que Dieu s'est toujours maintenu sur la scène, que nous trouvons dans le prophète Malachie, des personnes qui ne sont pas remarquables pour le monde, ils ne possèdent pas de titre imposant, sont des gens sans doute qui sont d'une classe tout à fait ordinaire. Et ce qui les caractérise n'est pas bien difficile, il ne faut pas avoir fait des études supérieures pour cela. Mais la première chose, c'est qu'ils craignent son nom, dans la crainte de Dieu, dans la crainte de désobéir à la parole de Dieu. Ensuite, ils pensent à son nom et ils parlent de lui. Vous voyez, à travers des occupations ordinaires, nous pouvons faire cela, penser à lui et parler de lui. Ce ne sont pas des choses difficiles. Mais pour cela, le Seigneur dit, eh bien, ces quelques-uns me sont tellement précieux que j'ai écrit un livre pour eux, un livre de souvenirs. Et pour chacun d'eux, j'ai écrit son nom dans ce livre de souvenirs. Le voici ouvert devant nous, dans l'évangile selon Luc. Sept tableaux de ce petit résidu composé de personnes tout ordinaires et d'un très grand âge en général. Vous avez remarqué l'âge de la dernière personne qui est en scène devant nous, et qui va chanter le dernier cantique. Et c'est une veuve qui chante. Il n'est pas courant qu'une veuve de cet âge chante, mais l'Esprit de Dieu nous montre ce qu'il produit dans une âme qui aime le Seigneur. Et la première personne qui chante, qui nous dit par l'Esprit Saint ce si beau cantique, c'est Élisabeth, qui est aussi très très âgée. Mais remplie de l'Esprit Saint, elle présente devant nous un chant d'une suprême beauté. Et la dernière personne qui constitue ce résidu, c'est Anne, une femme très âgée, peut-être près de 100 ans, si elle ne les a pas dépassés, et nous l'entendons chanter. Donc un encouragement pour nous à suivre ce petit résidu depuis le commencement jusqu'à la fin, et à nous pénétrer de ce qui les concerne. Nous avons vu hier et les jours précédents, donc Élisabeth, nous avons vu Marie, nous avons vu Zacharie, si notre mémoire est fidèle, dans le chapitre 1er, verset 67. La première mention de ce cantique, c'est en relation avec la semence de la femme, béni avec le fruit de ton ventre. La deuxième strophe de ce cantique, c'est à l'égard d'Abraham et à sa semence, c'est Marie parle d'Abraham et de toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham. Donc vous voyez, semence de la femme, Abraham. Ensuite, nous faisons encore une étape de plus dans le verset 67 et suivant. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, dira au verset 68, Dieu nous a visités, il a sauvé son peuple, pour lui la chose est déjà faite, et il nous a suscité une corne de délivrance dans la maison de David. Semence de la femme, semence d'Abraham, semence de David. Et c'est en David que, en Chronique 17, que Dieu va dire, eh bien, ce sera un de tes fils, qui sera celui sur lequel et à travers lequel toutes les promesses que j'ai faites vont s'accomplir. Ce n'est pas Salomon, si brillant, si élevé que soit Salomon. Ce n'est pas ton fils, mais un de tes fils qui sera assis sur mon trône. Et il y a deux choses dans ce chapitre, c'est le trône et l'autel, les deux pivots sur lesquels s'articulent les relations que Dieu va soutenir avec son peuple. Mais en raison de la semence de David, née de la semence de David selon la chair, dira Paul. Seigneur est donc un fils de David selon la chair, déterminé fils de Dieu, en puissance selon l'esprit de sainteté, mais né comme fils de David selon la chair, Romains 1, introduction de l'Épître. La voici devant nous. Qu'est-ce qu'une corne? Une corne de délivrance. La corne dans la parole de Dieu est toujours synonyme de puissance, de force. Eh bien, demain, chers amis, avec des cornes, comme des cornes de buffle, on va pousser tous ses adversaires jusqu'aux extrémités du désert. La corne est le synonyme, le symbole de la puissance de Dieu. Le prophète Zacharie nous parle des quatre cornes qui étaient à l'œuvre, qui avaient été à l'œuvre pour disperser Israël, c'est-à-dire les quatre grandes monarchies gentilles, autrement dit, l'Empire chaldéen, l'Empire médo-perse, l'Empire grec, et puis l'Empire romain. Quatre cornes, quatre grandes puissances qui ont été habitantes, que Dieu a établies dans ce monde. Pas cinq, il ne parle pas des Russes, il ne parle pas des États-Unis, il nous parle seulement de quatre empires. Et le quatrième est en train de se reformer. Nous ne voulons pas dire qu'il n'y a pas de relation avec les deux grandes nations que nous venons de citer. Mais Dieu a parlé de quatre cornes, de quatre empires, pas de cinq ou de six. Alors la corne, c'est donc la délivrance qui sera demain déployée, accordée à ce pauvre peuple qui va traverser une tribulation sans précédent, mais le prophète dit, il en sera sauvé. Et si le Seigneur n'eût abrégé ses jours, nulle chair n'eût été sauvée. Nous ne pouvons pas imaginer, chers amis, ce que seront les souffrances du résidu demain sur la scène. Autant de pogroms, de persécutions sanglantes, de tourments qui leur ont été infligés, eh bien le Seigneur dit, il n'y aura jamais eu une journée telle que celle-là. Il n'y aura jamais eu un temps de détresse tel que celui par lequel ils vont passer. Et il n'y en aura plus jamais. Mais le Seigneur, nous en avons parlé hier, le Seigneur a compté les jours pour leur résidu. Un temps, des temps, une moitié de temps. On voit que Dieu est fidèle aux promesses qu'il a faites et elles seront accomplies par le vrai David. Une corne de délivrance, une puissance agissante en délivrance issue de la maison de David. Pour nous, c'est quelque chose de plus grand encore, chers amis. La délivrance dont il est question ici, c'est une délivrance en relation avec la terre, délivrance du joug de l'Antéchrist, délivrance de toutes les nations qui vont les assaillir demain, délivrance du feu ardent dans lequel ils seront plongés. Mais c'est en relation avec la terre, et pour des bénédictions terrestres, infiniment précieuses sans doute, mais qui ne sont pas comparables aux bénédictions que Dieu nous a données, déjà maintenant bénies de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ces bénédictions sont en rapport avec le temps et avec la terre. Pour nous, nous en avons fini avec le temps et avec la terre. Quand quelqu'un est sauvé, quand quelqu'un est converti, s'il y avait encore ici une âme qui n'a pas donné son cœur au Seigneur, dès qu'elle se tourne vers le Seigneur et qu'elle l'accepte pour son sauveur, elle est sortie d'Égypte. Elle est sortie du temps, elle est sortie du monde, elle appartient au ciel. Son nom est écrit dans le livre de vie, mais elle en a fini avec le monde, elle en a fini avec le temps. Ce qui reste maintenant, c'est quant à notre pauvre corps mortel qui doit être changé, pour que, avec notre âme, nous formions ce que la parole de Dieu appelle la perfection, afin qu'ils ne parvinssent pas à la perfection sans nous. Ceux qui sont au ciel maintenant, les saints de l'Ancien Testament, ne sont pas encore dans la perfection. La perfection, c'est quand nous serons tous ensemble, en possession d'un corps de gloire, transmués, nous les vivants, ressuscités, ceux qui se sont endormis. Alors ce sera la perfection. Nous serons tous ensemble autour du Seigneur et nous le verrons. Les bien-aimés qui sont auprès du Seigneur ne jouissent pas encore maintenant de voir le Seigneur et ils ne possèdent pas encore la jouissance collective d'être autour du Seigneur. Mais le bonheur qu'ils éprouvent est incomparable, parce que Paul dit être avec Christ, cela est de beaucoup meilleur, car ce qu'il est, ce qu'en croyant en lui-même, quant à son moi intelligent, il est déjà dans la présence du Seigneur. Mais la corne de délivrance dans la maison de David est donc chantée par Zacharie. C'était le troisième cantique. Avançons un peu. Nous les citons en passant. Le quatrième cantique, c'est donc là, le ciel pour serre. Le ciel ne peut pas rester insensible au fait que Dieu se manifeste, s'abaisse, s'anéantit lui-même. Et nous avons un ange qui vient au verset 9, un ange du Seigneur se trouve avec de pauvres bergers, des gens qui aussi accomplissent une tâche pas bien difficile, sans doute pénible, gardant des troupeaux dans la montagne pendant la nuit, et tout à coup, ce ne sont pas des gens habitués au temple, au sanctuaire, ils n'ont rien de religieux, mais tout à coup, c'est à eux que l'ange vient parler. Pourquoi pas le souverain sacrificateur? Pourquoi pas dans le temple? Vous voyez, le Seigneur se souvient de ceux qui, des pauvres du troupeau, comme M. Lowe les appelle. Et le Seigneur justifiera son ministère en faisant dire à Jean, et l'évangile est annoncé aux pauvres, les voici. C'est à eux que l'ange vient dire, écoutez, j'ai un grand sujet de joie à vous annoncer. Quel est l'ange qui vient dire cela? Nous ne le savons pas. Mais vous avez remarqué dans l'Ancien Testament, il y a souvent, pour une communication exceptionnellement importante, l'ange avec un A majuscule. Il n'y a pas de majuscule dans l'original, mais le cher traducteur a introduit des majuscules lorsqu'il est bien certain qu'il s'agit de l'ange qui représente le Seigneur dans, comme on a dit, sa pré-incarnation. Par exemple, dans Genèse 22, l'ange de l'Éternel, il s'agit bien de l'Éternel lui-même. Pas de l'ange qui aurait pour l'autorité de dire ce qu'il a dit à Abraham. Dans le buisson ardent, vous avez l'ange de l'Éternel, avec A majuscule, et vous avez l'Éternel, et vous avez Dieu. Dans l'histoire de Manoah, c'est un homme, c'est l'ange de l'Éternel avec A majuscule, c'est l'Éternel lui-même et c'est Dieu. C'est une seule et même personne. Mais l'ange de l'Éternel se présente de façon mystérieuse de la part de Dieu. Mais ici, pourquoi n'avons-nous pas le A majuscule? Dans certaines occasions, pour détruire toute une armée de 180 000 hommes au temps d'Ézéchias, l'armée des Assyriens, Dieu va envoyer un ange. Quel ange? Avec A majuscule. Le traducteur a bien compris qu'il n'était pas nécessaire que ce soit l'ange avec A majuscule. Il a simplement écrit A minuscule. Pourquoi ici ne pas mettre là le A majuscule pour une déclaration de cette importance? Mais vous l'avez bien compris, parce que l'ange avec un A majuscule, c'est celui qui est dans la grève de Bethléem. Dieu était en Christ. Mystère de la piété est grand. Dieu était manifesté en chair et c'est un ange qui vient dire au berger, je vous annonce un grand sujet de joie. Aujourd'hui, dans la cité de David, Bethléem, la maison du pain, vous est né un sauveur, le Christ, le Seigneur. Et en voilà le signe. Vous allez vous rendre dans les tables où, hélas, il n'y avait pas d'autre place pour les parents du Seigneur étant donné leur pauvreté. Nous avons cela dans le verset, je le dis en passant, verset 24 de ce chapitre 2, ils ont présenté le Seigneur, les parents. Quel âge avait le Seigneur à ce moment-là? Quel âge avait le Seigneur lorsque les parents les ont présentés? Il a exactement 41 jours. 33 plus 8, comme la loi le disait. Et ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas eu les moyens pendant ces 41 jours d'acquérir l'agneau qui était nécessaire pour offrir en relation avec les exigences de la loi. Ils ont dû se limiter à offrir deux tourterelles. Voilà la richesse du Seigneur, de ses parents. Les mages ne sont pas encore venus à ce moment-ci. Vous voyez, les mages ont apporté de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Les mages ont apporté toute la provision nécessaire pour que les parents puissent aller avec le petit enfant en Égypte. Mais ici, nous sommes tout au début, au commencement, comme nous l'avons dit hier dans l'évangile selon Luc, c'est-à-dire à partir de l'étape. Alors les anges viennent dire aux bergers, et tout à coup, il y a, ne partons pas attarder, il y a une multitude au verset 13 de l'armée céleste, non pas chantant, mais louant Dieu. Les anges ne chantent pas. Nous ne trouvons jamais que les anges chantent. Le chant est le propre du racheté. Nous n'entendons jamais chanter. Nous ne pouvons pas confondre le chant que la vie nouvelle produit en nous avec les chansons du monde. Il n'y a pas de comparaison. Mais le chant est toujours la fonction du croyant qui s'empare de son corps, de son esprit, de son âme. Les seuls peuvent chanter. Mais tout notre être est sollicité. Le corps, l'âme et l'esprit. Dans le chant, mieux nous chanterons, mieux, plus le niveau de notre manifestation spirituelle sera élevé. Nous devrions chanter comme personne ne chante. Mais nous ne chantons qu'au-delà de la mer Rouge, qu'en possession des fruits de la rédemption. Alors les anges n'ont pas connu la rédemption. Les anges qui sont là n'ont pas péché, n'ont pas été écartés, jetés dans la Bible, de sorte que les anges peuvent louer Dieu, mais ne chantent pas. C'est nous, chers amis. C'est à nous que ce privilège extraordinaire est réservé de chanter. Chanter à l'Éternel, Exode 15. Comme nous chantons maintenant les louanges de Dieu en présentant Christ, l'essence du culte, c'est évidemment présenter Christ à Dieu dans ce qu'il est et dans ce qu'il a fait. Ça, c'est l'essence du culte. Présenter à Dieu Christ dans ce qu'il est dans sa personne et dans ce qu'il est accompli. Ça, c'est le résumé du culte. Alors, qu'est-ce que les anges vont dire? Ils louent Dieu en disant: gloire à Dieu dans les lieux très hauts, sur la terre paix et bon plaisir dans les hommes. Le moment est venu où Dieu peut manifester son bon plaisir dans les hommes, faire éclater la gloire dans les cieux et établir la paix sur la terre. Remarquez que dans le chapitre 17, si nous l'avons bien retenu, les mêmes expressions sont dites, mais il y a une phrase qui est supprimée. Qui l'a supprimée? Qui l'a supprimée? Et sur la terre paix. L'homme a supprimé cela. En rejetant le prince de paix, l'homme a ôté, a servi l'adversaire, a ôté la paix de la terre. Et jusqu'à la fin, il y aura. Quand le Messie sera retranché, il n'aura rien, dit le prophète Daniel, anticipant ce que nous avons devant nous, il y aura jusqu'à la fin guerre, un décret de désolation. Le sang n'a pas cessé de couler depuis la mort de Christ. L'homme a supprimé la partie centrale de cette louange des anges, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, sur la terre paix, l'a supprimé, mais Dieu conserve, selon son dessein, ce qu'il a conçu d'exercer son bon plaisir dans les hommes, et de les attirer à travers l'œuvre de Christ, à travers ce qui manifeste la méchanceté de l'homme dans ce qu'il a de plus abominable. Dans la mort de Christ, Dieu se sert de cet acte même pour en faire la porte de la grâce. Ô profondeur des richesses de la sagesse de Dieu, qui a pu mettre de telles pensées dans le cœur de Dieu, se servir du crime le plus abominable commis par l'homme pour en faire la porte par laquelle reçoit le pécheur, lavé dans le sang précieux de la croix, le sang qui a été versé par l'homme. Là où le péché a abondé, la grâce elle a surabondé. C'est donc le cantique central, le quatrième. Nous en avons d'un autre, les bergers, alors le verset 20, qui s'en vont glorifiant et louant Dieu, ayant entendu des choses semblables, vous avez vu ce qu'il est écrit au verset 20, des choses qu'ils avaient entendues. Mais c'est ce qui nous concerne. La première épître de Jean dit ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, c'est que tout ce qui est relatif à Christ, tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont entendu, c'est-à-dire l'essence même de la foi chrétienne pour nous. Et c'est un motif pour eux pour glorifier et louer Dieu. C'est donc le cinquième cantique. Ils glorifient et ils louent Dieu pour les choses qu'ils ont entendues et les choses qu'ils ont vues. C'est-à-dire le contenu de la foi chrétienne, comme Jean le dit en commençant sa première épître. Pour lui, c'est un souvenir extraordinaire, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, touché. Jean ne se lasse pas de parler du Seigneur tel qu'il l'a pu le voir, penchant sa tête sur le sein du Sauveur. Quel souvenir pour lui. Pouvait-il y avoir quelque chose de plus doux pour quelqu'un? D'avoir le Seigneur au milieu d'eux, de le voir, de l'entendre, d'examiner tous les détails de son activité. Pouvait-il y avoir quelque chose de plus précieux que cela? Nous pourrions dire non, mais pourtant oui. Le Seigneur dit, écoutez, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Alors la possession du Saint-Esprit pour nous, nous y venons tout de suite avec Siméon, la possession du Saint-Esprit surpasse toutes les bénédictions les plus sensibles, les plus désirables que soient, qui se soit trouvé sur la terre, même à voir le Seigneur au milieu d'eux. C'était un avantage pour eux que le Seigneur s'en aille, qu'il remonte au ciel comme homme glorifié. L'assurance, l'action, c'est l'intelligence, et les âmes, c'est l'espérance chrétienne dont nous avons déjà quelque chose en nous, comme gage, comme Paul le dit dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Alors, nous avançons encore un peu, nous arrivons maintenant au sixième cantique chanté par un homme qui a toujours ému par son récit ce qu'il était, ce qu'il faisait. On dit le pieux vieillard. Peut-être que c'est un vieillard, mais nous n'en savons rien. Je ne pense pas que la parole dit que c'est un vieillard, mais il devait être quand même certainement âgé. Alors commençons par le commencement. Il y avait à Jérusalem un homme dont le nom était Siméon. Qu'est-ce que cela rappelle pour nous, Siméon ou Simon? C'est le même mot, mais en grec, l'autre en hébreu. Il n'y a pas beaucoup de Simon dans le Nouveau Testament. Siméon, Pierre, oui. Il y a un Simon dans l'assemblée à Jérusalem, dans acte 8. Il y a un Simon qui est acte 13, dans l'assemblée à Antioche, pardon. Il n'y en a pas beaucoup de Simon, de Siméon. Mais pourquoi les parents ont-ils appelé? Vous savez bien que les parents juifs appelaient leurs enfants avec une certaine prémonition, ne le faisant pas à la légère, donnant un nom en rapport avec l'état de leurs affections, de leur rapport avec Dieu. Or, pour des parents, appeler quelqu'un Siméon, c'était donc quelque chose de très sérieux, parce que Siméon n'a rien d'enviable. Quelle est l'histoire de cet homme? L'histoire d'un homme redoutable, un homme au caractère trempé, dont la chair est dure comme le fer. L'exemple que je vous dis à votre esprit, tout c'est bien celui de Joseph. Quand ses frères sont revenus, ils ne savent pas que Joseph les comprend. Et Ruben leur dit, je vous l'avais bien dit, hein. Il ne fallait pas mettre votre main sur l'enfant. Et maintenant, quel profit avez-vous de vos deux pièces d'argent? Vous avez reçu chacun deux pièces d'argent. 20 pièces à partager en 10. Quel profit avez-vous des deux pièces d'argent que vous avez reçues pour vendre notre frère? Ah, si vous m'aviez écouté, j'aurais voulu le sauver, simplement le mettre dans la citerne et puis le délivrer à l'insu de ses frères. Mais Dieu ne se contente pas de compromis simples. Il faut bien noter cela. La conduite de Ruben, l'aîné, sans doute est un compromis. Mais Joseph a entendu cela, de sorte qu'il se rend bien compte maintenant de la responsabilité de chacun. Alors il dit, bien maintenant, l'un d'entre vous va rester ici, pendant que vous allez remonter vers votre père pour voir si vous avez bien dit la vérité pour me ramener votre jeune frère Benjamin. Qui va-t-il faire rester? L'aîné, le plus responsable. Non, ce n'est pas Ruben qui le fait rester, c'est le second, Siméon. Il dit à Siméon, c'est Siméon qui va rester. En les regardant tous, il a vu dans les traits de cet homme, dans le regard de cet homme, il a vu quelque chose d'inflexible, il a vu ce qu'était la chair dans cet homme. Il le montrera bien, il l'a bien montré, en coupant les jarrets des taureaux avec son frère Lévi. C'est un homme redoutable, Siméon. La tribu des Siméonites a une histoire aussi particulière. Mais pourquoi alors des parents appellent-ils leur enfant Siméon? Siméon ne rappelle pas quelque chose de beau, d'appréciable. Mais, chers amis, il y a un petit secret. Siméon, quand il est venu au monde, sa mère a dit, l'Éternel m'a entendu. Elle avait souhaité, elle avait prié pour avoir un enfant, et l'Éternel avait entendu. De sorte que nous ne pouvons pas douter en ce instant que c'est bien cela qui émerge dans le nom de Siméon. Les parents de Siméon l'ont appelé ainsi pour rappeler que Dieu, dans des temps les plus sombres, les plus difficiles, comme au jour de Zacharie, qui est devenu un vieillard avec son épouse, vont recevoir cet enfant pour lequel ils ont prié pendant des années et il y a bien longtemps. De la même manière, ici, les parents de Siméon disent, l'Éternel entend. Dieu n'est pas sourd à nos prières. Ô toi qui écoutes la prière. Donc, en 1987, comme au début du siècle, comme au début du témoignage, il n'y a pas de différence. Y a-t-il un changement en Dieu? Y a-t-il une ombre de changement, une variation quelconque? Dieu est le Père. Avant la prière, Dieu dit « Je suis ». Le temps ne compte pas pour Dieu. Et il dit avec les derniers ce que nous sommes, comme avec les premiers, je suis le même. Bien, ces personnes pieuses n'ont dit l'Éternel entend. Et ils ont appelé leur enfant Siméon pour rappeler précisément cette fidélité de Dieu. Alors, ceci dit, nous avançons et nous avons le caractère de cet homme. Il était juste, il était pieux. Et donc, lui qui va nous chanter le sixième cantique. On va essayer de ne pas trop nous attarder aux détails pour considérer un peu ce cantique. Il était juste et pieux. Y a-t-il une contradiction dans la parole de Dieu lorsque nous lisons sur la plume de la peau, il n'y a pas de juste, il n'y a pas même un seul. Alors ici, nous disons que cet homme était juste. Et Paul dit, il n'y en a pas un seul. Comment concilier cette apparente contradiction? Eh bien, il n'y a personne qui est juste en lui-même, par lui-même, qui peut acquérir un état tel qu'il est considéré comme juste devant Dieu. Il faut que ce soit Dieu qui nous justifie, qui nous tienne comme étant quitte de toutes conséquences de nos fautes et de nos péchés parce que Christ les a portés en son corps sur le poids. Et je suis justifié non pas en vertu de mes œuvres, ni en vertu de ma foi comme si elle avait une valeur en elle-même, je suis justifié par la grâce et par le sang du Christ. La justice de Dieu est une justice légale, une justice sans appel, une justice qui ne laisse rien à l'homme, mais qui provient de la grâce de Dieu et qui, pour pouvoir l'exercer, a sacrifié son Fils. Vous vous souvenez bien que dans le temple, les chérubins ont leurs ailes étendues, un coudé, comme le lieu très saint, pour nous montrer que rien n'a été atténué, rien n'a été amoindri dans les exigences de la sainteté et de la justice inflexible de Dieu Christ. A dû payer tout ce qui était relatif, tout ce qui était exigé par la justice et par la sainteté. Et la preuve dans ce tableau que Salomon nous donne, qu'il en est bien ainsi, c'est que l'autel a les mêmes dimensions que les chérubins dans le temple. L'autel a 20 coudées de largeur, 20 coudées de longueur, 10 coudées de hauteur. Les chérubins ont 20 coudées, leurs ailes étendues, sont 10 coudées de hauteur. Les chérubins sont les agents qui requièrent l'application de la justice de Dieu par loi judiciaire. Christ a payé. Rien ne lui a été atténué. Mais l'autel a les mêmes dimensions. Il a pu épuiser la colère de Dieu de telle manière que Dieu maintenant peut prendre tous nos péchés, les jeter loin derrière son dos, les engloutir dans les profondeurs de la mer. Cet homme était juste, non pas en lui-même, il n'y en a pas un seul, mais il était juste dans ses voies, c'est-à-dire qu'il était conséquent avec le privilège de connaître Dieu. La justice dans ce cas, c'est le psaume 23, il me conduit dans un sentier de justice à cause de son nom. Étant donné parce que Dieu qui sauve est toujours le Dieu saint, ne l'oublions pas, sauf que le psalmiste, il me conduit dans un sentier de justice pratique, c'est-à-dire un sentier dans lequel le mal est écarté. Mais que faut-il faire si nous nous sommes laissés sur le vent par quelque mal? Il n'y a pas de vie sans péché. Là, nous avons des ressources, mes amis. Ce n'est pas un état. C'est hélas accidentellement qu'un mal peut survenir dans la vie d'un croyant. Mais Jean nous montre que si il en est ainsi, si cet accident est survenu, nous avons un avocat au préliminaire qui intercède pour nous. Et alors, Dieu, le Père, nous pardonne et ôte de notre conscience le poids de la culpabilité qui relève du péché que nous avons. Seigneur, comme avocat, intercède auprès du Père. Et quelqu'un disait, vous voyez, il met une main sur les pieds de ses saints qui sont souillés dans le chemin et l'autre main sur le trône du Père. C'est un beau tableau, cela. Sa main sur les pieds que j'ai souillés dans le chemin et son autre main sur le trône du Père. Il était juste, marchait dans un chemin de justice pratique. Il était pieux, ça veut dire les rapports de confiance et de crainte avec Dieu. La crainte, non pas d'un esclave devant son maître, mais la crainte de déplaire à quelqu'un que l'on aime. Si nous aimons quelqu'un, notre épouse, nos parents, nous craignons de leur déplaire. C'est cela la crainte ici. La crainte de déplaire à Dieu. Non pas la crainte servile, non, la crainte de déplaire à Dieu dans son chemin. C'était donc deux qualités essentielles de cet homme. Et comme tel, il était agréable à Dieu, et un jour, il a reçu une révélation. Il nous est dit qu'en plus, il attendait la consolation d'Israël. Il avait une espérance. Il attendait la consolation d'Israël. Quelle était la consolation d'Israël? Eh bien, c'est Jean-Baptiste qui allait la faire connaître. Et c'est le prophète Ésaïe qui la met, qui la place dans la bouche de Jean-Baptiste. Vous rappelez bien ce que nous voulons dire dans le psaume. Lorsque l'homme a fait son temps, a monté ce qu'il était, eh bien, une voix décrit, que crierai-je ? Bien, toute chair est de l'herbe. L'homme est sans valeur pour Dieu. Tout a été mis, tout a été essayé. L'herbe est desséchée, la fleur est fanée, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Alors, la consolation, la voici. Consolez mon peuple. Après la sombre histoire de l'homme, Dieu dit, consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que son temps de détresse est accompli, que son iniquité est acquittée. Ce sera prêt pour demain. Mais cet homme attendait, dans ce jour-là, ce qui était déjà écrit par le prophète Ésaïe, la consolation de Dieu. La consolation de Dieu qu'il allait envoyer lorsque l'histoire de l'homme serait terminée, comme la fleur des champs qui serait fauchée, il ne reste rien, mais la parole de notre Dieu, dont il était l'expression vivante, entrait en scène pour produire une vie nouvelle. Et une vie nouvelle qui nous introduit dans la présence de Dieu, en communion avec Dieu, pour jouir de la consolation de Dieu. Alors Paul nous dira dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, nous avons reçu une bonne espérance par grâce et une consolation éternelle. De quelle manière, jeune homme ? Il y a des mères ici parmi nous. Eh bien, le prophète dit, comme une mère console son enfant. Caresser sur les bras, caresser sur les genoux, porter sur les bras. Il n'y a pas de tableau plus saisissant de la consolation d'une mère à l'égard de son petit enfant. Caresser sur les genoux, porter dans les bras, comme une mère console son enfant. C'est ainsi que je vais vous consoler. C'est ainsi que Dieu va essuyer toute larme dessus nos visages demain. Mais cet homme attendait, lui, dans sa sphère, la consolation d'Israël. Il marchait donc de manière à être agréable à Dieu, et il attendait la consolation d'Israël, ce que nous avons évoqué dans Ésaïe 40. Ensuite, l'Esprit Saint était sur lui. Ici, nous commençons à voir des différences qu'il nous faut souligner. L'Esprit Saint était sur lui. Il n'a pas dit que l'Esprit Saint était en lui. Pourquoi ? Parce que l'Esprit Saint n'était pas encore descendu sur la terre comme sceau, nous l'avons dit tout à l'heure, de la foi du croyant. Mais l'Esprit Saint le conduisait, comme il conduisait les saints de l'Ancien Testament. De saints hommes de Dieu, par exemple, les prophètes ont parlé, étant poussés par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint était sur lui. Pas en lui, mais l'Esprit Saint était sur lui pour le conduire, pour donner l'intelligence des choses qu'il avait à accomplir. L'Esprit Saint était sur lui et il avait été averti divinement par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Ici, il nous faut nous arrêter un petit instant. Il avait donc reçu une révélation de la part du Seigneur. Le Seigneur lui avait dit, en l'avertissant divinement, « Siméon, tu vas mourir. Je vais te recueillir un jour. Mais avant de mourir, tu vas voir le Sauveur, pas seulement le salut, mais celui qui sauve. » Donc, remettons-nous à la place de Siméon, il pourrait dire, moi je vais mourir un jour, mais je sais qu'avant de mourir, je vais voir le Sauveur. Quelle est la différence avec nous, jeunes ? Nous ne pouvons pas dire, nous, je vais mourir, parce que la mort n'est pas notre espérance. Ou sinon, nous ne comprendions pas ce que Paul nous a dit, voici, je vous révèle un secret, je vous révèle un mystère, nous ne nous endormirons pas tous, ce n'est pas la mort que nous attendons. Nous sommes bien fixés sur ce point. Cher frère Véritat Pernou, nous l'avons déjà souvent dit, mais ça nous avait frappé de l'avoir entendu nous-mêmes, le dernier jour de sa vie, alors qu'il était bien près de s'en aller, et il le réalisait bien, il disait à sa famille réunie autour de lui, autour de son lit, mais vous savez, je n'attends pas la mort, j'attends le Seigneur. Mais cet homme, lui, contrairement à nous, le Seigneur l'avait dit, tu vas passer par la mort, Siméon, mais avant de t'en aller, tu vas voir le Sauveur. Et pour nous, chers amis, eh bien nous attendons le Sauveur. Et après, la mort ne sera plus. Dès que le Seigneur est là, nous allons nous écrier, mort, où est ta victoire ? Elle sera engloutie, sera vaincue, Satan sera brisé sous nos pieds. Lui attendait la mort, mais avant, il allait voir le Seigneur. Mais nous, dès que nous allons voir le Seigneur, nous n'avons plus rien à faire avec la mort. Elle n'exercera plus jamais aucun droit sur nous. Après, la différence entre Siméon, cet homme pieux, et les privilèges qu'il possédait, et ceux du croyant glorieux. Voici, je vous révèle un secret, nous ne nous endormirons pas tous, mais nous allons voir le Seigneur, peut-être aujourd'hui. Parce qu'il n'y a jamais qu'un instant qui nous sépare de la venue du Seigneur. Mais les personnes ont dit, oui, mais ceux qui sont morts depuis que la promesse a été faite, alors ils ont attendu en vain, pas du tout. Paul, il se place au milieu de ceux qui attendent ou de ceux qui seront endormis. Il ne peut pas dire quelle sera sa position. Mais ce que nous pouvons dire, c'est qu'aucun croyant n'a été frustré, quelle que soit la longueur de sa vie. Parce que dès qu'un croyant quitte sur cette scène, j'en ai mis pour lui, il est avec le Seigneur. L'éternité bienheureuse a commencé pour lui. Donc un croyant qui s'en va, qui a attendu le Seigneur le matin de sa vie, n'est pas frustré parce que le Seigneur le reprend. Il entre dans la joie de son maître. Il entre dans le repos près du Seigneur. Il n'a pas été frustré. Mais ce bonheur d'être avec le Seigneur est celui qui termine sa vie sur la terre. Et nous ne pouvons rien faire, de plus que, comme le soulignait quelqu'un, que d'accompagner la sortie de nos bien-aimés. Et le Seigneur dit, je garderai ta sortie et ton entrée. Non pas aller plus loin que la sortie de nos bien-aimés. Nous les accompagnons de nos soins et puis nous ne pouvons plus rien faire. Mais le Seigneur alors, qui pourrait dire l'accueil? Quel est l'accueil fait par le Seigneur aux bien-aimés qui recueille? Quel moment de tout à coup d'être soustrait à la scène environnante, un corps de souffrance, tout ce qui peut nous éprouver, nous dépouiller tout à coup. Être avec le Seigneur. Quelqu'un peut-il expliquer cela? Eh bien, cet homme, il attendait la consolation d'Israël et il savait qu'il verrait la mort, mais qu'avant il verrait le Seigneur. Nous avons vu la différence pour Dieu. Alors, il vient dans le temps, quand les parents portaient le petit enfant, verset 27. Et il le prit entre ses bras, verset 28, et il bénit Dieu. Et il dit, maintenant, Seigneur, ce que tu as dit, tu peux le réaliser. Tu me laisses aller. J'ai vu le Seigneur, j'ai vu le Sauveur. Laisse-moi aller maintenant. Je n'ai plus rien qui me rattache à la terre. Alors il prend le petit enfant de ses bras. Vous voyez quel tableau saisissant. Et que va-t-il faire? Ah, c'est un vieillard pieux, il est juste pieux. Il a beaucoup d'autorité, voilà, il va bénir le petit enfant. Ah, il se garde bien de le faire. Vous ne trouvez pas qu'il bénit le petit enfant, mais il bénit Dieu. Et bénir a deux sens, nous le savons bien, bénir ici, c'est dans le sens de rendre des louanges à Dieu. Donc maintenant, le petit enfant, en le regardant, quel tableau, il bénit Dieu. Il élève son cœur en louange jusqu'à Dieu. Il ne bénit pas le petit enfant, pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui nous dit que le moindre est béni par celui qui est le plus excellent. Or, entre ce vieillard, puisqu'on nous dit que c'est un vieillard, juste pieux, qui a tant de qualités, et le petit enfant qui est le plus excellent. C'est bien le petit enfant. Cet homme ne s'est pas trompé, Siméon. Il bénit Dieu à l'occasion du bonheur qu'il éprouve de tenir le petit enfant. Mais alors, il rend l'enfant sa mère, et puis il peut étendre ses mains et bénir les parents. Parce que là, il a le droit. Vous voyez quelle précision dans la parole de Dieu à l'égard de la gloire du Seigneur. Il ne bénit pas le petit enfant. Il loue, il élève son cœur en louant jusqu'à Dieu. Mais dès qu'il a remis le petit enfant, alors il peut étendre ses mains et il peut bénir les parents. Verset 34, et Siméon les bénit. Il va exercer ce rôle de prophète et va dire, voici, celui-ci est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Cet homme anticipe, chers amis, ce que Paul va nous dire dans l'Épître aux Romains et ailleurs aussi, comment la pierre qui est placée par Dieu sera, je vais peut-être lire le verset de Matthieu 21, ça nous verra en terminant bientôt. Verset 44, le Seigneur parle de la pierre au verset 42. La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là devenue la maîtresse pierre du coin. Et ceci est de par le Seigneur, et elle est merveilleuse devant nous. C'est pourquoi je vous dis, verset 43, que le royaume de Dieu vous sera ôté et sera donné à une nation qui en rapportera les fruits. Seigneur, anticipe donc le rejet d'Israël et montre que le royaume leur sera ôté, le royaume qui leur était promis, en raison de ce qu'ils vont faire à cette pierre méprisée par eux, élue, choisie pour Dieu, mais méprisée par eux, rejetée. Alors le Seigneur leur dit, eh bien le royaume vous sera ôté et sera donné à une nation qui en apportera les fruits. La grâce avait en effet ses temps fondation et Dieu a recueilli beaucoup de fruits au sein des nations. Et le Seigneur ajoute, et celui qui tombera sur cette pierre sera brisé. Mais il parle aux Juifs, anticipant le rejet qu'ils vont faire de sa personne. Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé. C'est le cas de la nation. Ils sont tombés sur cette pierre et ils ont été brisés. Les armées romaines ont réalisé cela point pour point. Et alors il est ajouté, et celui sur lequel elle tombera, elle le croira, ça c'est pour demain, seront broyés demain par cette pierre qui va descendre de la montagne, une pierre sans main, et qui va venir tout anéantir tout ce qui reste de la statue, et anéantir tous les apostats de son peuple. Donc il y a deux choses dans Matthieu 21. Et bien cet homme nous introduit déjà dans cette pensée, vous voyez, ce Siméon, il nous dit, celui-ci il est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Il entrevoit, il prévoit le rejet du Seigneur de sorte que c'est pour la chute de ceux qui ont rejeté le Seigneur qu'il le présente. Et le relèvement de plusieurs, c'est-à-dire de ceux qui, après l'économie actuelle, c'est une application que l'on peut faire certainement, seront relevés, puisque le tabernacle de David sera relevé lorsque la plénitude des nations sera entrée. Mais cet homme ne parle pas d'une pierre de salut, il dit, celui-ci, il est mis pour signe que l'on contredira, et c'est pour la chute et le relèvement de plusieurs, ceux qui allaient le rejeter, partie religieuse de son peuple en particulier, allaient tomber sur cette pierre, ne se relèveraient pas. Mais d'autres alors allaient suivre, et le relèvement de plusieurs, ceux des nations notamment, de notre économie, après le rejet de Christ, après la descente du Saint-Esprit, Pierre, Paul allait surgir sur la scène et montrer l'attention de Dieu à l'égard de tous les hommes. Et enfin, chers amis, Siméon est béni et il dit à sa mère ce que nous venons de voir, il sera pour un signe que l'on contredira au verset 34. Cela reste vrai jusqu'à nous sommes dans une compagnie, eh bien, tout va bien, mais si quelqu'un prononce le nom du Seigneur, les cœurs se manifestent. Ce n'est pas possible que le cœur de l'homme ne soit pas manifesté devant le Seigneur. C'est un signe que l'on contredira. Et une épée même transpercera ta proclame. Quelle prophétie dans la bouche de cet homme. Un signe que l'on contredira, il est contredit encore aujourd'hui, de la même manière qu'au commencement, et pour qu'une épée allait transpercer ta proclame. Quelquefois, au culte, on dit, eh bien, on cite le prophète Jérémie, vous le savez, on dit, y a-t-il une douleur telle que ma douleur, moi que l'Éternel a affligé. Mais ce n'est pas une pensée juste au fond. On le dit avec beaucoup d'amour pour le Seigneur, voyez, c'était une douleur comme ma douleur. Mais le Seigneur n'a jamais imploré la pitié de personne. Il a dit aux femmes, pleurez sur vous, et sur vos enfants, ne pleurez pas sur moi. Mais c'est le résidu qui dit cela. Et en fait, il est illustré dans Marie, ici c'est elle qui allait avoir au pied de la croix son âme transpercée. Pauvre femme, quand elle a vu Jésus, son fils selon la chair, cloué sur cette croix. Sauf que le Seigneur, son fils, va la soustraire à ce spectacle insoutenable. Il va dire à Jean, Jean, voilà ta mère. Et femme, voilà ton fils. Et nous lisons dans l'évangile selon Jean. Et dès cette heure-là, Jean a prêché lui. Jean a soustrait cette pauvre mère à ce spectacle affreux, insoutenable de la croix. Une épée transpercera ta proclame. Dernier mot, cher ami, c'est ceci. Est-ce qu'un juif n'aurait jamais parlé comme Siméon s'il n'était pas conduit par l'Esprit Saint? Vous avez vu ce qu'il a dit plus tôt, hein? Nous terminons avec cela. Et nous allons rappeler une courte anecdote. Quand il dit, mes yeux ont vu ton salut au verset 30, lequel Dieu a préparé. En fait, si on avait le temps, on pourrait parler de beaucoup de choses que Dieu a préparées. Devant la face de tous les peuples, remarquez, une lumière pour la révélation des nations et la voix de ton peuple Israël. Est-ce que je n'ai jamais parlé de la révélation des nations, du bonheur que les nations les connaissent en relation avec Christ, avec le don de Christ, et ensuite de la gloire d'Israël? Jamais. Si on lit en prophète Esaïe, je te donnerai pour être une alliance du peuple d'abord, du peuple d'Israël, et pour être une lumière des nations. Ça, c'était l'ordre que le prophète indiquait avant que le Seigneur vienne. Être une alliance du peuple et une lumière pour les nations. Mais d'abord le peuple et ensuite les nations. Et Siméon, lui, il renverse l'ordre et il dit, mais il fallait vraiment le Saint-Esprit pour dire cela, parce qu'un juif jamais ne se serait, n'aurait pensé que les nations pouvaient être avant eux. Vous savez bien comment ils diront à Paul quand ils ont entendu, eh bien maintenant nous nous tournons vers les nations, quand Paul leur a dit que désormais la grâce de Dieu était pour les nations, hôte de la terre, un pareil homme, il n'aurait pas dû vivre, il l'aurait mis en pièces. Qu'il leur parle de l'évangile pour eux, pour la nation, ça, cela l'est encore. Mais dès qu'il a ouvert la porte des nations, dès qu'il a montré que Dieu ouvrait la porte aux nations, cet homme, il ne pouvait plus. Jusqu'à présent, il l'avait écouté. Mais dès qu'il a parlé des nations, ils l'ont interrompu, ils l'ont mis en pièce. Eh bien, voilà Siméon, lui. Il parle déjà au moment où il tient. Il peut déjà dire, quel bonheur pour nos chers amis. Il peut déjà dire, eh bien, en raison du rejet de Christ, tous les peuples seront au bénéfice de ce salut. La lumière va se lever pour eux, et plus tard, la gloire de son peuple Israël. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. La courte anecdote, la voici, ça dure seulement 30 secondes. En Afrique, j'ai un ami, il y a des locaux, des indigènes, ce sont des locaux, tout ce qu'il y a de plus médiocre, vous voyez bien. Alors on voit du côté d'une porte, un mot et 3-16. Là, on comprend bien que c'est Jean 3-16. Puis de l'autre côté, il y a des chiffres et un mot, mais on ne comprend pas, bien sûr, c'est dans la langue indigène. Alors, on demande, qu'avez-vous écrit? Ah, chers amis, c'est émouvant que, au fond de l'Afrique, des croyants aient réalisé dans leur misère, dans leur abaissement, dans tout ce qui peut les caractériser de pénible quant à la vie qui leur est faite, dans des conditions si effroyables. Eh bien, ils ont écrit Jésus. C'est une lumière pour la révélation des nations. Au sein de l'obscurité et du paganisme, ces gens qui ont compris le salut, ils ont mis Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, et puis Dieu nous a donné Jésus pour être la lumière des nations.